Et donc, c'est un principe qui est rappelé ici par Moïse. Verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » En qui se confient nos compatriotes? J'ai des sondages, là, publiés par Le Monde il y a quelques années. (Clears throat) 41% des Français croient à la sorcellerie et au sort. 46% croient à la vérité des prédictions des médiums et autres astrologues. 60% croient qu'on peut expliquer le caractère de quelqu'un par l'astrologie. 60%. Je n'ai pas le pourcentage, mais je crois qu'un plus grand nombre encore lit l'horoscope chaque jour. Juste pour s'amuser, bien sûr. Et on raconte qu'un journal n'avait pas pu publier son horoscope journalier et que le standard avait été envahi de coups de téléphone. L'influence de l'astrologie, de l'ésotérisme, de l'occultisme en France. Il y a près de 30 000 médiums en France. Si vous avez habité Nice, sans doute vous avez reçu dans votre boîte aux lettres des petits mots disant que tel marabout peut réconcilier l'amour, peut vous donner le succès dans les affaires. Une grande majorité des gens croient à ces choses. Même beaucoup de chrétiens. Peut-être que parmi nous, peut-être que vous encore, vous croyez à ces choses. La parole de Dieu est formelle, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ce qui est incroyable de réaliser, c'est que les gens qui trouvent que lorsque l'on parle de la Bible, de Dieu, vont trouver qu'on est des illuminés, mais ils vont baser leur décision sur les lignes de la main. Sur les cartes, le tarot, sur la radiesthésie, qu'est-ce que c'est que les sciences occultes? Ce sont des doctrines, des pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui ne sont pas reconnues par la science ni par la religion. Et qui requiert une initiation. pour être voyant, pour être astrologue, il faut suivre une formation occulte, cachée. L'État français qui est laïque n'hésite pas à mettre des décorations représentant les signes du zodiaque sur des bâtiments publics. Il me semble qu'il y a un bâtiment de la sécurité sociale à Nice où on voit les signes du zodiaque représentés sur le devanture. Ce besoin de connaître le futur en se dissociant complètement d'un Dieu à qui on a des rendre. À qui on a à rendre des comptes. C'est vraiment le problème. Et pourquoi est-ce que c'est une abomination aux yeux de Dieu? Je crois qu'une des raisons, c'est qu'il veut qu'on mette notre confiance en lui, pas dans la position de Jupiter et de Mars à l'heure de notre naissance. Quelqu'un faisait remarquer aussi qu'en fait, ça sépare le futur de notre conduite morale. Si mon succès en amour dans les affaires dépend de la position de Jupiter et de Pluton à 7h30 de telle date quand je suis né, à quoi bon essayer de vivre moralement? Pourquoi montrer de l'amour autour de moi? Pourquoi chercher à faire le bien? Si c'est décidé par un hasard cosmique, alors vivons n'importe comment. Et la magie, la divination, chercher à connaître le futur par des moyens occultes, ça constitue aussi un refus de la souveraineté de Dieu. Si je sacrifie un poulet sur la porte de mon voisin, à ce moment-là, je peux influencer le cours des choses. Si en mettant des épingles dans la poupée qui représente mon voisin, ça me donne une grande puissance. C'est pas étonnant que Dieu ait ces choses en abomination. C'est aussi un refus de faire confiance à Dieu pour mener notre vie. Je peux changer le cours des choses par ces croyances. Je peux pas rentrer en contact avec les morts, avec des tablettes, oui ou non. Avoir le numéro du prochain tiercé. Des choses plus graves. Mais surtout, je crois que ce qui est abominable, c'est que ça donne l'entrée à Satan. Lorsqu'on lui laisse la porte ouverte, la Bible nous dit qu'il est un ange de lumière. Ça paraît beau, mais il est là pour détruire, pour tuer. Et bien sûr, je crois qu'il y a un réel pouvoir dans ces choses. C'est pas dans les horoscopes, mais lorsqu'il y a la voyance, lorsqu'on va consulter des médiums, on s'ouvre à un esclavage, Satan. Je crois qu'il peut accomplir des miracles. Il peut donner à certains la faculté de voir des choses futures. Qui va donner à ses médiums, à ses voyants, une puissance contre Dieu. Et peut-être que, encore une fois, ce ne serait pas surprenant parce que c'est partout autour de nous. Vous êtes encore, vous lisez encore votre horoscope. Arrêtez. Ce qui compte, ce n'est pas de connaître le futur, mais de connaître intimement celui qui connaît le futur. En qui plaçons-nous notre confiance? L'horoscope ou la Bible? Cet enseignement, on le retrouve dans tout le Nouveau Testament. Vous vous souvenez de l'épisode dans Actes 16 où les disciples rencontrent une servante qui avait un esprit de divination, qui procurait un grand profit à ses maîtres. Acte 16. Et donc, Paul ordonne à l'esprit qui l'habite de sortir d'elle, et elle sortit à l'heure même. Preuve, s'il était qu'il y a vraiment des esprits mauvais. Dans toutes ces divinations, ces magies, Dieu est tellement opposé à ces choses qu'il promet que ceux qui s'y livrent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et si vous vous souvenez bien, la raison des grandes victoires d'Israël, c'était parce qu'ils combattaient contre des peuples qui se livraient à ces choses. L'occultisme en France progresse. Les Français ont importé sans aucune fierté nationale une des plus mauvaises fêtes américaines. Halloween. Alors même si je sais qu'on essaye de la faire remonter au temps des druides, ce qui est probablement pas dénué de fondement, pourquoi donner de l'influence, de l'importance aux sorcières, aux squelettes, aux esprits mauvais? Peut-être que vos enfants se déguisent en sorcières, j'espère que non. Parce que ça peut être très dangereux. En esprit, en... Dieu ne trouve pas que c'est mignon. Quelqu'un disait, est-ce que vous trouveriez mignon que vos enfants se déguisent en prostituées, en trafiquant de drogue, en proxénète? Bien sûr que non. Et nous, en tant que chrétiens dépositaires de cette vérité, de la Bible, nous ne devons surtout pas nous mêler à ça. Encore une fois, si des personnes s'y livrent par ignorance, donnons-leur la vérité avec amour, sans les juger. Avant que je ne connaisse la Bible, c'est vrai que je regardais mon horoscope. J'ai même recherché longtemps un magazine que je ne trouvais pas chez ma mère pour voir si, quand j'avais rencontré Nancy, les astres étaient bien placés. Dieu n'a pas permis que je le trouve. Merci. Ne nous confions pas en l'occultisme. Comment connaître le futur? Verset 15. Je reviens, j'étais 18-15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Un prophète qui allait surgir du milieu de des frères. Aujourd'hui, les Juifs l'attendent toujours, ce prophète. Vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste prêchait dans le désert, les Juifs lui demandaient « Qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie ?» Celui qu'ils attendaient. Plus loin, il est dit, chapitre 1 de Jean, verset 19, « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessa sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Donc, même au temps du Nouveau Testament, on voulait savoir qui était ce prophète promis par Moïse, par Dieu, par la bouche de Moïse. Ce prophète, bien sûr, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas Mahomet, comme le pensent les musulmans. Ce n'est pas Joseph Smith, comme le pensent les mormons. Ce prophète promis par Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est venu nous révéler la vérité. Il a prophétisé. Jusqu'à présent, aucune de ses prophéties n'a été invalidée. Lorsqu'on parle des astrologues aujourd'hui, on pense que s'ils disent la vérité, 60% des cas, c'est formidable. La Bible, c'est du 100%. Je disais un gros titre dans la rue. Je disais que un journal qui disait que leur astrologue avait prédit que ce serait, je ne sais plus qui serait élu exclu du loft. Et en fait, la personne s'était trompée, l'astrologue s'était trompé. S'il avait vécu au temps de Moïse, il aurait été mis à mort. Prophétiser faussement, c'est prendre la place de Dieu. En qui nous confions-nous? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit, tu n'en auras pas peur. Et puis, avant, verset 20, ce prophète-là sera mis à mort. Le prophète attendu par Moïse, par le peuple juif, est déjà venu et il va revenir. Le passage suivant nous parle d'une disposition intéressante rencontrée déjà dans le livre des Nombres. Je lis à partir du verset 1, du chapitre 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura retranché les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu mettras à part pour toi trois villes du milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour que tu en prennes possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire de ton pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi, afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. De quel meurtrier s'agit-il? Il s'agit de l'homicide involontaire. Voici le cas du meurtrier qui s'enfuira là pour conserver la vie lorsqu'il aura tué son prochain par mégarde, sans l'avoir haï auparavant. Il se sera rendu avec son prochain dans la forêt pour abattre des arbres. Sa main aura brandi la hache pour couper un arbre. Le fer échappé du manche aura atteint son prochain qui sera mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour conserver la vie. Un accident de hache. La cognée s'en va du manche et va tuer le voisin. La ville est prête pour son refuge. Aujourd'hui, ça pourrait être un accident de la route. Ou involontairement, vous causez un accident qui tue quelqu'un. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour conserver la vie, verset 5, verset 6, de peur que le vengeur du sang, dans l'ardeur de sa colère, ne le poursuive et ne l'atteigne s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne le frappe mortellement alors qu'il ne mérite point la mort puisqu'il ne haïssait pas son prochain auparavant. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu mettras à part pour toi trois villes. Ensuite, il explique que si le territoire s'agrandit, il y aura trois villes de plus. Ainsi, le sang innocent, verset 10, ne sera pas répandu au milieu de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et il n'y aura pas de sang sur toi. Par contre, s'il y avait un vrai meurtrier, quelqu'un qui avait tué son prochain avec malice, avec haine, Le maire ou l'équivalent du maire, les responsables de la ville devaient s'en saisir et le remettre au vengeur du sang. Alors qu'est-ce que c'est que ces villes de refuge? Qu'est-ce que c'est que ce vengeur du sang? Verset 6. En hébreu, c'est ce qu'on appelle le Goël. Dans le Nouveau Testament, il est question du Rédempteur. Le vengeur du sang, c'était un peu le protecteur de la famille. C'était un peu le patron de la mafia. Dans un bon sens. Si, par exemple, un juif était vendu en esclavage, ce protecteur de la famille, qui devait être un homme proche de cette personne, avait la responsabilité de le racheter. Ce qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Si quelqu'un avait perdu la propriétaire du grand-oncle parce qu'il avait des dettes, ce vengeur du sang devait aussi racheter la propriété. Si un de ses frères mourait sans avoir donné d'enfant à sa femme, il avait la responsabilité de donner des enfants à cette femme. Et il avait surtout la responsabilité de venger la mort d'un membre de la famille. C'est vrai que ça paraît un peu arriéré comme technique, comme pratique plutôt. Mais pour ceux qui connaissent la culture corse, c'est l'idée de vendetta, l'honneur. Les bandits d'honneur qui prennent le maquis si ils doivent tuer quelqu'un qui a insulté leur famille. Et les Corses ont un sens très chapelier de l'honneur, comme vous le savez. Ça reste vrai dans d'autres pays. On le voit en Palestine, en Irlande, au Kosovo, au Liban. Donc l'idée, c'était de protéger le meurtrier innocent, involontaire plus exactement. De la colère de la famille et surtout de l'atteinte de ce vengeur du sang. Et c'est vrai que ces villes avaient une signification très pratique, très concrète. Il n'y avait pas de force de police. Et donc, il fallait que les responsables de la ville exercent un peu cette police. Et donc, ils pouvaient l'envoyer dans une cité de refuge. Le mot refuge, qui fait penser au mot fugitif, qui a la même racine que fugace, rapide. Réfugié, ça vient de fugace, ça veut dire fuir. Fuir en arrière, se réfugier. Se retirer vers la sécurité. Donc il y avait ces cités qui étaient placées à portée de course dans la journée. Une fois qu'il avait atteint la cité, la personne pouvait enfin se relâcher. Il était en sécurité. Si l'autre arrivait avec son couteau, son courant, il ne pouvait pas le toucher. Il fallait attendre. Il était obligé de rester là. Il ne pouvait reprendre sa liberté et quitter la cité de refuge quand le grand prêtre mourait. À ce moment-là, il avait une liberté supérieure, il était en sécurité partout. Donc c'était une juste loi qui voulait protéger les innocents et condamner les coupables, encore une fois. Les anciens devaient faire une enquête sérieuse et voir si c'était vraiment innocent ou pas. Mais cette disposition des villes de refuge, elle a une signification symbolique encore plus profonde. On dit en termes bibliques une signification typique, c'est un type. Encore une fois, c'est un type de qui ? De Jésus-Christ. Il est notre refuge. En Hébreu 6, 18, il est dit « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. » Christ est notre refuge. Et en fait, lorsqu'on voit c'était la grâce de Dieu qui offrait ces cités. C'est bien sûr la grâce de Dieu qui fait que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Ces cités, on les connaissait parce qu'elles étaient dans la parole. De même façon, nous connaissons la vérité sur le sacrifice de Jésus parce qu'il est révélé dans sa parole. C'est pas en regardant un beau coucher de soleil qu'on connaît la vérité du sacrifice de l'amour de Christ. C'est seulement par sa parole. De la même façon, notre salut, c'est pas quelque chose que nous fabriquons, c'est pas quelque chose que nous méritons, c'est la grâce de Dieu. Ils n'avaient pas 50 façons de se protéger. Il fallait aller dans la cité de refuge. De la même façon, c'est pas en plaçant notre confiance dans l'horoscope. Pas en nous confiant en Mahomet, en Bouddha, seulement en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve en aucun autre, nous est-il dit dans Actes 4, 12, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ces cités, on l'a rappelé, elles étaient accessibles à tous. Dieu, dans sa grâce, les avait ordonnées de façon à ce qu'elles soient à la portée de chacun. Ce n'est pas seulement ceux qui avaient reçu une connaissance spéciale, ou ceux qui étaient nés dans le signe du poisson avec ascendant, je ne sais pas quoi. Tous les gens qui vivaient là pouvaient courir vers la cité de refuge. Une différence, c'est que lorsque l'auteur de l'accident mortel arrivait dans une de ces villes, il était jugé pour savoir s'il était vraiment c'était un meurtre involontaire ou non. Nous, il n'y a pas de besoin de jugement quand nous venons à Christ. Nous sommes déjà condamnés. Jean 3, 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Sans Jésus-Christ, nous sommes coupables. Avec Jésus-Christ, nous sommes coupables, mais nous sommes pardonnés. Nous sommes tous coupables devant Dieu, il dit dans Romains 3. Tous nous avons péché, nous sommes loin de la gloire de Dieu. Et le seul chemin, le seul secours, c'est Jésus-Christ. Amen. Pas l'horoscope, c'est pas les faux prophètes. C'est la cité de refuge que constitue Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les coupables, ceux qui avaient commis un meurtre involontaire ou pas, peut-être, quand ils allaient vers la cité de refuge, je crois qu'on peut raisonnablement être sûr qu'ils ne s'arrêtaient pas en route pour regarder les fleurs. Ils couraient de toute leur énergie. Lorsqu'ils arrivaient dans la ville, ils étaient sauvés, mais ils étaient aussi sûrs d'être sauvés. Ils avaient été sauvés par la grâce de Dieu qui avait pourvu ce secours. Mais pourquoi est-ce qu'il était certain d'être sauvé? Parce que la parole de Dieu lui en donnait l'assurance. Ce matin, j'aimerais prier pour ceux qui, peut-être, ont déjà reçu le Seigneur. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas encore sûrs d'être acceptés par Dieu. Si Jésus est votre cité de refuge, la parole de Dieu déclare que vous pouvez être sûr que vous êtes sauvés. Amen. La grâce de Dieu nous sauve, sa parole nous en donne l'assurance. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que, comme pour les cités de refuge, l'accès est facile. Nous ne croyons pas qu'il soit bon marché. Il a coûté à Dieu la chose la plus précieuse qui existait, son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous avez couru vers votre cité de refuge? Si vous ne l'avez pas fait, vous devez le faire sans perdre un instant. Parce qu'il poursuivant un peu l'analogie, il y a un vengeur du sang. Nous étions dans la famille du diable. Il est prêt à nous tuer, à nous attraper. Jésus a dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Encore une fois, la liberté complète, elle était acquise, avec la mort du grand prêtre. Et la mort de Christ, notre grand prêtre sur la croix, elle nous libère complètement. Peut-être que vous sentez encore prisonnier de certaines choses, de mauvaises habitudes, de votre caractère coléreux corse. ou irlandais, ou italien, je ne sais pas. En Christ, la vérité vous rend libre. Lorsque vous vous sentez prisonnier de certaines choses, c'est Satan. Satan veut vous le faire croire. Il nous accuse. Il ne dit pas de bonnes choses sur nous, je peux vous le garantir. Mais c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Et lorsque Jésus vous assure que dans sa parole, il dit que si nous courons à lui, nous sommes sauvés, nous sommes sûrs d'être sauvés, il dit... Il dit, comment tu peux croire que ce soit vrai? Regarde-toi dans la glace. Regarde à tes pensées, même en ce moment. À quoi penses-tu? Encore une fois, il s'agit de savoir en qui vous mettez votre confiance. En Christ qui est la vérité, ou en Satan qui est le père du mensonge. Courons vers notre cité de refuge. Et cette fois, on y court la première fois. Quand on est sauvé, quand on accepte le Seigneur pour la première fois. Et dans notre vie, tous les jours, on peut courir vers lui. Cette semaine, je vous mets au défi. Lorsque vous êtes tenté d'aller vers lui et de voir qu'il va vous laisser tomber. Si nous tombons, c'est parce que nous n'allons pas vers lui. Malheureusement, j'en fais l'expérience dans ma vie. Jésus est là, c'est la cité de refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Peut-être que vous êtes dans la détresse en ce moment. Peut-être que les événements qui vous entourent sont plus forts que vous ne pouvez penser. Éternel, ma force, ma forteresse, ma retraite au jour de la détresse. C'est Jérémie 16, 19. Plus loin, verset 17, toi mon refuge au jour du malheur. Est-ce que vous saviez que Dieu est même un refuge contre la pluie? Ésaïe 25 nous dit qu'il est un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante. C'est un terme de Dieu, ça. Un abri contre la pluie battante. Un ombrage contre la chaleur. Et là, bien sûr, Ésaïe parle des tyrans dont le souffle est comme une pluie battante sur un mur. Oui. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8. Que vous dites, Jésus, tu es mon refuge. Où est-ce que vous allez regarder l'horoscope? Où est-ce que vous allez demander à des amis qu'est-ce qu'ils en pensent? Il est bon de chercher le conseil d'amis chrétiens. Mais notre refuge, ça doit être Jésus. parole de Dieu est une tour, le juste y court et s'y réfugie aussi. Après avoir parlé des cités de refuge, Moïse continue en parlant des déplacements de bornes. Des faux témoins. Apparemment, c'était une pratique courante à l'époque pour voler du terrain à son voisin. Il suffisait de déplacer la barrière. Mais je crois que là, il est question des bornes. Et quelque part, Dieu a mis des bornes dans sa parole. Et aujourd'hui, nous aimerions bien bouger ces bornes. Relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un peu dépassé de les interdire. On va bouger la borne un peu sur la gauche. L'homosexualité est une abomination, allons, soyons raisonnables. Si on est né comme ça, on bouge un peu la borne. Quelqu'un a dit que tout ce qui est nouveau n'est pas vrai. Et tout ce qui est vrai n'est pas nouveau. Dans le sens où on a déjà tout dans la parole de Dieu. Et n'allons pas faire du révisionnisme. Faisons confiance à Dieu, à sa parole. Ta parole est la vérité. Encore une fois, la parole, c'est aussi un refuge. Et donc, on voit que être chrétien, ça veut dire nager à contre-courant. Et je crois pas que ça va devenir plus facile dans les années à venir. À mesure qu'on remonte le cours d'eau, les barrages, la puissance du courant, tout ça, ça s'intensifie. Je vais vous inviter à vraiment être ferme, à ne dépendre que de la parole de Dieu, pas sur l'air du temps. Et à faire confiance à Jésus en toute chose. J'ai mon refuge au jour du malheur, ma forteresse dans ma détresse. Courons vers Jésus. Amen. Prions. Seigneur, je me confie en toi parce que tu es digne de confiance. Celui qui se confie en toi n'est jamais déçu, Seigneur. Seigneur, aide-nous à le croire vraiment, à le pratiquer. Seigneur, aide-nous à vivre dans la liberté que tu nous donnes. Cette liberté vis-à-vis du péché, des mauvaises influences. Cette liberté vis-à-vis du diable, du monde et de notre chair. Merci pour ta grâce et ton amour. Peut-être peut-être parmi nous, il y en a qui n'ont pas vraiment encore couru jusqu'à cette cité de refuge qui est Jésus. Si c'est le cas, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Demandez de prier après moi cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que je vis sans égard à ta volonté, que je suis ma volonté dans la tienne. Seigneur, je reconnais que tu es venu mourir sur la croix pour ces péchés. Seigneur, que tu es ressuscité. Et je veux courir vers toi comme vers ma cité de refuge. Pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Pour vivre dans l'assurance de ton amour. Je me détourne de mes péchés avec ton aide, Seigneur. Je reçois ton Esprit Saint, Seigneur. Viens vivre en moi. Pendant que nous sommes encore dans la prière, si quelques-uns ont prié cette prière, je leur demanderai de lever la main pour qu'ils puissent prier pour eux. C'est la plus grande décision que vous puissiez prendre dans votre vie. Nous vivons dans un monde dangereux. Le diable, notre ennemi, rôde pour savoir comment il peut nous dévorer. Courons toujours vers Jésus, notre refuge. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine et que vous n'hésitiez jamais à courir vers lui. Amen. Jeudi, je vous encourage donc à venir à la réunion de prière. Et encore une fois, on vous demande de vous inscrire si vous pensez, si vous êtes disponible le 24. Pour savoir si on monte ou pas à la courbesse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.